Radio Kapi. Le journal Noéla Louzi Toukabambi à la présentation.
Le gouvernement de la RDC recommande la convocation urgente de la réunion des chefs d'état-major général décidée lors du sommet conjoint SADC-EAC en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification. C'est après le constat de violation par le Rwanda et le 1-23 du cessez-le-feu décidé par ce sommet. Une maladie inconnue a tué plusieurs personnes en une semaine dans le territoire de Bassankoussou, province de l'Équateur. L'alerte est donnée par le sénateur Boké Tchoubofili Jean-Paul. Il appelle les gouvernements provincial et national à y déployer une équipe technique médicale pour identifier cette maladie et apporter une assistance humanitaire aux populations locales déplacées et meurtries. L'invité du journal, c'est le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Il va revenir sur la rencontre hier à Goma entre la délégation de la CENCO SCC et le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC. Bonjour à tous. Le gouvernement condamne et attire l'attention de la communauté internationale sur la violation par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23 du cessez-le-feu décidé par le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC tenue le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Dans un communiqué de presse rendu public hier mercredi, le gouvernement congolais recommande la convocation urgente de la réunion des chefs d'état-major général décidée lors du sommet conjoint en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification. Des précisions dans cet élément de Gassam Zati, rendu par Divin Bwinga.
Le gouvernement congolais rapporte que dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après le sommet, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont bombardé des positions des forces armées de la RDC dans la localité de Ndoluma, chefferie de Bamaté, territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan de 14 morts, dont des civils et plusieurs blessés, affirme-t-il. Dans le même territoire, des positions tenues par les FARDC ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités de Kanyambi, de Ndolama et de Tchoulo, dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Plusieurs positions des FARDC dans les localités d'Ioussi et de Mounanira sont attaquées depuis le matin du 11 février 2025 par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23. Le gouvernement indique que l'ennemi a été repoussé, même s'il continue de recevoir des renforts. Pour décourager cette attitude qu'il qualifie de récidiviste, le gouvernement de la RDC recommande une condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC, assorti de sanctions, mais aussi la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ce nouvel acte d'agression.
Alors que le sommet conjoint SADC-EAC avait ordonné un cessez-le-feu immédiat et sans condition, les combattants du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur progression dans la province du Sud Kivu. Après de violents combats qui les ont opposés aux FARDC et leurs alliés, ils occupent désormais Ioussi et Calais Centre, siège des bureaux administratifs du territoire de Calais. Calais devient ainsi le tout premier territoire de la province du Sud Kivu qui passe sous occupation du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mardi dernier, des bombes étaient tombées dans les maisons d'habitation appartenant à des civils au village Mouagwere, à environ 1 kilomètre d'Ioussi, semant la panique au sein de la population civile. Une délégation composée des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC a rencontré hier à Goma le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nanga, et d'autres dirigeants du groupe M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par ces deux confessions religieuses auprès des acteurs sociopolitiques du pays pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. D'après le secrétaire général de la CENCO, les représentants religieux ont présenté leur plan de sortie de crise intitulé « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC » visant à renforcer la cohésion nationale. On écoute Mgr Donatien Cholet dans cet extrait que nous propose Grâce Hamzati.
Nous avons pensé que la FCM 23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter. Et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population AFC bar M23 représentée par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir en les écoutant. Ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si le Congolais se mettait autour d'une table. On a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, nous ne sommes pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire.
De leur côté, les femmes membres de la plateforme interconfessionnelle Dynamique Femmes pour la Paix encouragent le gouvernement congolais à négocier pour épargner des vies humaines. Elles ont exprimé leur profonde inquiétude mardi à Kindu face à la situation sécuritaire qui sévit actuellement dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La responsable de la dynamique interconfessionnelle Femmes pour la Paix, Abedi Luzinga Edwin, est au micro de Florence Kizalunga.
L'insécurité se manifeste par la guerre aggravée par la prise de la ville de Goma depuis le 31 janvier dernier, mettant ainsi la population déjà affaiblie. En effet, ce combat entre la FARDC et AFC M23 avec ses alliés ont causé des pertes en vies humaines, en majorité les femmes et les enfants, en plus des violations des droits humains exacerbées par les viols, les violences basées sur le genre, les pillages créant un climat de peur et d'incertitude caractérisé par les déplacements massifs de la population. En union avec d'autres femmes, condamnons avec véhémence cette énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le supplétif de AFC M23. Fustigeons le silence coupable de la communauté internationale face au massacre de la population congolaise depuis plus de 30 ans et sans aucune sanction contre le Rwanda.
Au moins 5000 candidats membres des groupes armés sont attendus pour intégrer le processus des désarmements et démobilisations dans la région de Beni au Nord Kivu. Pour atteindre cet objectif, Omar Kavota, chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, Beni pense que le gouvernement doit appuyer ce processus avec des moyens conséquents. Il l'a dit mardi après une visite du site de désarmement et démobilisation de Beni par le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, en visite dans la région. Omar Kavota explique au micro d'André Kitenge.
Il nous a encouragés à mobiliser davantage les membres des groupes armés afin qu'ils adhèrent au processus de désarmement et de mobilisation pour que parmi eux, ceux qui choisissent de défendre la République, s'ils sont dans les conditions d'éligibilité, embrassent la réserve armée de la défense, la RAD, ou encore s'enrôlent individuellement au sein des FARDC, parce que c'est le vœu de tout le monde que la République soit défendue par la grande porte. Nous allons nous employer à mobiliser davantage les membres des groupes armés, parce que dans cette zone de Beni, nous attendons au moins 5000 candidats membres des groupes armés pour les territoires qui doivent faire leur adhésion au processus de désarmement et de mobilisation. Dans les territoires de Beni, nous avons presque le même chiffre. Donc, dans l'espace Grand Nord, au moins 10 000 membres des groupes armés sont attendus pour les DD, et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement, avec l'appui du ministère de la Défense, nous allons arriver à cet objectif.
Et puis, dans le territoire de Lubero, l'ONG Enfants pour l'avenir et le développement et ADEV, basée dans la région, parle des centaines d'enfants actuellement enrôlés dans des groupes armés nationaux et étrangers. Et ADEV, basée dans la région, l'a dit hier, 12 février, journée internationale de lutte contre les enfants soldats. Pour cette organisation de défense des droits de l'enfant, le retour de la paix dans la région reste la seule solution pour mettre fin à ce phénomène, comme l'explique le point focal de l'ONG au téléphone de Guylaine Kassassia.
Dans les territoires de Lubero, nous continuons à faire face à l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers. Malheureusement, tous ont des enfants parmi leurs effectifs. Nous avons compté au mois de novembre et décembre de l'année écoulée au moins 100 enfants qui sont dans les groupes armés de Bana Bateseka, les groupes armés des victimes de massacres et les groupes armés des FPP/AP. Ce sont les groupes armés locaux qui sont actifs dans notre territoire de Lubero parmi tant d'autres. Et ADEV constate avec regret la présence d'au moins 7379 enfants à l'âge scolaire, dont 3748 filles parmi les personnes déplacées. Notre crainte, au lieu d'aller à l'école, ils sont dans la rue. Ils deviennent ainsi une proie pour ceux qui recrutent les enfants dans les groupes armés. Pour mettre fin à l'utilisation des enfants dans les groupes armés, que le gouvernement pacifie la zone.
Le sénateur Boké Tchoubofili Jean-Paul alerte sur l'apparition d'une maladie inconnue dans le territoire de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Dans un communiqué de presse publié hier à Kinshasa, l'élu de l'Équateur affirme que cette maladie a fait des dizaines de morts en moins d'une semaine et des déplacements massifs des communautés touchées. Ainsi, en vue de sauver des vies humaines, le sénateur appelle-t-il de toute urgence les gouvernements national et provincial à déployer une équipe technique médicale pour identifier l'origine de la maladie et apporter une assistance humanitaire aux populations locales déplacées et meurtries. Plus de détails avec vous, grâce à Mzati.
Dans son communiqué, le sénateur Boké Tchoubofili Jean-Paul précise que c'est dans la localité de Bomati, située à 25 km de la ville de Bassankoussou, que se manifeste cette maladie d'origine inconnue, caractérisée par des fièvres hémorragiques, des maux de tête, des douleurs articulaires généralisées ou lombalgie. Les victimes succombent au bout de 24 heures, indique-t-il. À ces jours, on dénombre plus de 36 cas de décès notifiés par la zone de santé de Bassankoussou en une semaine, soit la période allant du 3 au 9 février en cours, et plus de 50 morts depuis l'apparition de la maladie quelques semaines avant dans cette localité qui ne compte qu'environ 5000 habitants, rapporte le sénateur Boké Tchoubofili. Le communiqué ajoute que plus de 2000 personnes ont fui leur village pour trouver refuge dans la ville de Bassankoussou et dans les villages environnants. Selon cet élu de l'Équateur, il s'agit d'un drame sanitaire et humanitaire grave qui dépasse la capacité des autorités administratives locales et du système de santé qui sont débordés et dépourvus des moyens pour y faire face. Nous n'avons pas encore réussi à joindre le médecin-chef des zones de santé de Bassankoussou ainsi que les autorités locales à ce sujet.
Santé encore. Le ministre provincial de la Santé dans le Haut-Katanga alerte sur des cas de rage canine enregistrés dans la ville de Lubumbashi. Il invite tous les détenteurs des animaux domestiques à le faire vacciner pour arrêter l'expansion de la maladie. Il l'a fait savoir mardi dans un message à la population. L'extrait du message du ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambibulanda, et sélectionné par Jean Gandou.
Le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec celui de pêche et élevage, informe la population de Lubumbashi et de ses environs qu'une épidémie de rage canine sévit à Lubumbashi, en particulier dans la commune annexe. Dans le but de stopper l'extension de cette épidémie, essentiellement causé par les morsures de chiens en divagation, il est recommandé de faire vacciner tous les animaux domestiques, c'est-à-dire chiens, chats, singes. Cette vaccination s'effectue dans différents bureaux communaux par les vétérinaires commis à cette tâche. Par contre, tout cas de morsure doit être orienté sans tarder et ce cas sera pris en charge gratuitement par l'office vaccinogène de Lubumbashi, situé près de la morgue de l'hôpital Sendwe au quartier Makutano, ville de Lubumbashi.
Qu'est-ce qui se passe entre le syndicat des enseignants du Congo, territoire de Moba, et la banque Tembe dans la province du Tanganyika? Ce syndicat accuse la banque Ce syndicat accuse la banque TMB de détournement de plus de 77 millions de francs congolais en l'espace de 4 mois. Dans une déclaration parvenue hier à Radio Okapi, le CIECO annonce que depuis octobre dernier, la TMB et ses agents payeurs à Moba prélèvent mensuellement un montant sur le salaire de chaque enseignant. En réaction, une source proche de la TMB à Kalemi rejette ces allégations. Depuis Kalemi, Paul Amunang.
Le secrétaire permanent de ce syndicat souligne que de novembre 2024 à janvier 2025, la TMB a retiré le montant de 5000 francs congolais sur les salaires de chaque enseignant. À leur tour, les agents payeurs de cette banque ont retiré aussi entre 3000 et 5000 francs congolais. Ce qui fait que sur chaque salaire d'un enseignant, cette banque retient entre 8000 et 10000 francs congolais chaque mois, indique Placide Muyumbangoy, secrétaire permanent du CIECO Moba. D'après lui, la somme cumulée en 4 mois est exorbitante.
Il se révèle que seule la TMB a pris 35 411 000 francs congolais d'octobre en janvier de cette année, de même que 24 996 000 francs congolais à 41 660 000 francs congolais qui restent dans les mains des agents payeurs de la banque TMB.
Contacté par Radio Okapi, une source proche de la TMB à Kalemi annonce que la banque n'a soutiré aucun montant sur les salaires des enseignants de Moba. Elle précise que la TMB retient uniquement 2,5 dollars américains sur les salaires de chaque enseignant comme frais de tenue de compte. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Bénin rappelle son ambassadeur au Niger pour consultation à la suite des propos qu'il a tenus et qui sont jugés non conformes à la ligne des autorités béninoises. L'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Angokan, avait déclaré le 1er février dernier, lors d'une cérémonie à Gaya dans le sud du Niger, demander pardon au peuple nigérien au nom de son pays. Des propos qui ont beaucoup de mal à passer à Cotonou, car en totale opposition avec la ligne défendue à Cotonou dans le processus de normalisation en cours entre les deux pays, qui fait suite à la crise diplomatique déclenchée entre Cotonou et Niamey par le coup d'État contre l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, en juillet 2023.
L'invité
du journal, c'est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, Monseigneur Donatien Cholet nous parle de la rencontre hier à Goma entre une délégation de CENCO SCC et ceux de la rébellion de AFC M23. Il s'entretient avec Grâce Amzati.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer Corné Nanga, coordonnateur de l'AFC, ainsi que certains dirigeants du groupe Rebelle M23. Qu'est-ce que vous leur avez dit?
Eh bien, nous poursuivons la tournée que nous avons commencée à Kinshasa pour sensibiliser tous les acteurs sociopolitiques qui comptent dans la résolution de la crise, dans la construction de la paix durable, pour leur expliquer les motivations, ce que nous voulons, la méthodologie de projet pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. L'objectif, c'est de convaincre que la lutte armée n'est pas la solution, mais nous venons avec une proposition qui peut contribuer à la construction de la paix durable, donc le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble.
Et quelle était la réaction du groupe rebelle?
Bon, il a dit être ouvert au dialogue. Il a promis de nous envoyer dans le meilleur cahier des charges. À l'issue de nos échanges, nous sommes renforcés dans notre conviction que par rapport à toutes ces revendications que certains peuvent considérer de prétexte, il y a lieu de s'asseoir pour résoudre tout ça pacifiquement.
Et par rapport à la cessation des hostilités, la rébellion accepte finalement de ne plus continuer la violence?
Bon, nous avons lancé l'appel. Vous savez, une telle décision ne se prend pas du jour au lendemain, mais nous avons parlé avec insistance et au moins il est d'accord que si on trouve la solution à leurs revendications le plus tôt possible, la lutte armée n'aurait plus de sens. Voilà pourquoi nous sommes excités à continuer à convaincre davantage pour mettre fin à la guerre.
Si nous comprenons bien, Corné Nanga et son groupe AFC acceptent de discuter avec Kinshasa, de rencontrer le chef de l'État autour d'une table.
On n'a pas lors d'une rencontre entre M23 et le chef de l'État. Nous avons expliqué notre dynamique que vous connaissez bien. Nous voulons leur implication dans la dynamique et ils se disent ouverts. Alors on attend le cahier des charges et les conditions qu'ils vont mettre, nous ne savons pas encore.
Et entre-temps, la situation humanitaire se dégrade dans la ville de Goma. Est-ce que vous n'avez pas touché ces points au cours de vos échanges?
Bien sûr que oui, on était avec l'archevêque pour essayer de comprendre. Vous savez, il y a aussi beaucoup de choses qui se racontent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vraies du tout. Je ne suis pas là pour faire dire exactement, mais nous avons été sensibles à cela, nous avons évoqué cela, nous avons échangé sur l'aspect humanitaire. On n'a rien négligé, nous avons partagé avec lui les préoccupations des Congolais qui disent non à la balkanisation par rapport aux critiques de la justification de la guerre par l'exploitation et des minéraux. Donc nous avons parlé en pasteur et à toute responsabilité et il nous a réussi aussi pas en guerrier. Vous aurez constaté qu'il n'avait pas de barbe, il n'avait pas la tenue militaire.
Entre temps ici à Kinshasa, certains acteurs et formations politiques rejettent votre démarche, notamment l'UDPS, le parti présidentiel. Qu'en dites-vous?
Bon, je crois que parlant de l'UDPS, moi je considère ça comme, je l'ai dit tout à l'heure, une imbroglio. Parce que l'autorité morale reste le président de la République qui nous a réussi et tout le monde sait que le président a encouragé l'initiative qu'il a jugée de louable. Il a dit qu'il accueillait ça avec respect alors qu'il y a un son de cloche contraire, tout pas ça responsable. Mais nous allons de l'avant parce que la République n'appartient pas à un groupe de gens, mais chacun est libre de s'exprimer. C'est la foi qui nous guide et nous croyons que dans un bref délai, on pourra déjà recevoir les avis des uns et des autres pour évoluer.
Avez-vous un message à la population congolaise tout comme aux acteurs sociopolitiques?
À ceux qui ne comprennent pas encore la dynamique de la CENCO et l'ECC, qui sachent qu'ils ont affaire aux pasteurs qui aiment ce pays, aux pasteurs qui s'engagent pour la paix et qui sont ici à Goma dans une mission strictement pastorale. Évidemment qu'il y a des accointances politiques et sur le plan sécuritaire. Nous ne décidons rien. Nous ne disons même pas que nous voulons être médiateurs. Nous sommes là pour défendre la cause du peuple congolais qui a besoin de la paix durable pour bien vivre et aussi bien vivre avec les autres.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Merci.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noéla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Pierre Diassinois. Le tout sous la coordination et la supervision de Lievi Nombwinga. Je vous laisse en compagnie de programme de Radio Okapi.